Vous écoutez RTL. RTL, la curiosité est un vilain défaut.
De 14h à 15h, avec Sidonie Bonnec et Thomas Hulquet.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission des curieux qui se posent toutes les questions que vous vous posez, qui y répond, mais qui se posent aussi toutes celles que vous ne vous posez pas. Et il y en a, ça c'est tous les jours sur RTL, du lundi au vendredi, de 14h à 15h. Bonjour Thomas.
Salut Sidonie, sacré défi quand même. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
On
vous
a peur
savez,
de rien.
Dans cette émission, on aime explorer la nature. Tout à l'heure, ce sont les secrets de drôles de bestioles que l'on vous propose, les animaux associés. On va découvrir ces couples improbables, la crevette nettoyeuse et la murène, la vache et son bousier, la moule et son mini-crabe. Mais comment font-ils pour vivre ensemble? Réponse vers 14h30.
Et nous, on adore vivre avec lui. Tout de suite, on vous raconte sur RTL l'histoire de votre téléphone.
Allô
RTL.
Allô le monde. Est-ce que tout va bien, allô le monde.
La curiosité est un vilain défaut.
Denis Bonnec.
Mais comment est né le téléphone? C'est en se regardant tous pendus à nos smartphones dans le bureau de la curiosité qu'on s'est posé cette question toute bête. Bonjour Patrice Carré, tous les jours.
Bonjour.
Soyez le bienvenu.
Merci.
Vous avez éteint votre téléphone?
J'ai éteint mon téléphone. J'ai vérifié avant de rentrer dans ce studio.
C'est bien vu, Sidonie, parce
Thomas,
que moi,
c'est le spécialiste.
J'ai encore le vibreur.
Autrement, c'était un gag parfait pour une émission
parfait.
Comme celle-là.
Patrice Carré, vous êtes historien, professeur à l'École nationale supérieure des télécommunications et au CELSA. Également, avoir un téléphone portable, ça nous semble normal et pourtant, en 1991, c'est une première dans le journal de Paul Amar sur France 3 avec Élise Lucet.
Et vive le progrès, vous pourrez très bientôt téléphoner à votre fiancé ou à votre maman n'importe où, n'importe quand et discrètement, et cela grâce à un minuscule appareil de poche.
Le Bebop, c'est son nom, n'est pas plus gros qu'une calculette et grâce à des bornes installées un peu partout en ville, il permet d'appeler de la rue mais aussi de chez soi. L'expérience a été lancée aujourd'hui à Strasbourg.
Patrice Carré, ce Bebop, est-ce qu'il a eu beaucoup de succès?
Écoutez, il a eu un succès relatif dans la mesure où on commence à Strasbourg. Au tout début, d'ailleurs, ça s'appelle le Pointel. Le Pointel, puis ça va devenir le Bebop.
Ça fait américain, le Bebop, c'est ça?
Ouais, ça fait mieux. Puis ça fait jazz, Bebop.
C'est jazz.
Très bien. Ça fait Charlie Parker.
Ça sonne bien aux oreilles.
Mais oui, voilà.
C'est pas pour ça que ça va durer une éternité.
Non, c'est pas pour ça. Et donc, il va s'installer peu à peu à Paris, et puis dans les grandes villes françaises, 94, 95. Et puis, peu à peu, on va l'abandonner. Et pourquoi on va l'abandonner? Parce qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, c'est la technologie dite du GSM. Mais il faut bien savoir quand même qu'on est arrivé à un moment à peu près 400 000 abonnés. Et puis en 97, au moment où on retire pratiquement du marché le Bebop, il y a encore 50 000, 45 000 personnes qui l'utilisent.
Si je me souviens bien, il fallait être près d'une borne pour pour que ça fonctionne.
Voilà, être près d'une borne qui en général était signalée par un bandeau bleu, blanc et vert, si mes souvenirs sont exacts. Et il ne fallait pas trop bouger, parce que si on s'éloignait, évidemment, on perdait la communication.
C'est une forme de fil, en quelque part, de fil à la patte, quelque part.
Et puis, on ne pouvait pas être appelé. On pouvait appeler. Et en général, ce que faisaient les gens, ils se faisaient appeler sur...
Le tam-tam
ou autre. On se faisait appeler sur le pager. On disait, rappelle Sidonie ou Thomas. Et avec son Bebop, on allait près d'une borne et on vous rappelait.
Oui, on avait les deux objets, on avait le pager et le Bebop. Et alors le téléphone cellulaire, là, on se rapproche de nos technologies actuelles, quand est-ce qu'il apparaît?
Alors, le téléphone cellulaire, il y a des études qui sont faites à partir de la seconde moitié des années 1980, au sein d'un groupe qui s'appelle le groupe spécial mobile, GSM, qui par la suite deviendra bien entendu le Global System for Mobile Communications, mais... C'est l'étude, si vous voulez, du numérique. Comment peut-on communiquer à distance avec des technologies qui ne sont plus des technologies comme on les connaissait auparavant, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais qui sont des technologies numériques. Et puis, ce GSM va se développer et on commence vraiment à le voir arriver sur le marché dans la première moitié des années 1990 et dans la seconde moitié des années 1990, à partir de 95-96, c'est un succès fabuleux.
Moi, j'ai un souvenir de reportage à l'époque à TF1 où on partait avec nos premiers téléphones comme ça, mobiles. Mais c'était une enclume, on transportait un truc énorme. C'était quoi? C'était la batterie?
C'était la batterie, ça prenait la moitié du coffre de la voiture. Oui, ce qu'on appelait le Télécom 2000.
Exactement.
Mais ça, c'était encore un téléphone analogique. Je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais c'était beaucoup moins performant.
Oui. Patrice Carré, autre étape importante, c'est l'avènement du smartphone, celui qu'on connaît aujourd'hui. En quelle année naît-il?
Eh bien, écoutez, il y a 10 ans, c'est 2007. Steve Jobs qui présente l'iPhone avec tout l'apparat qu'il y avait autour de ces présentations de Steve Jobs. Mais il est vrai que ça a été un moment tout à fait fondamental parce que ça a révolutionné et c'est parti très vite. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs marques, il y a Apple, il y a Samsung, etc. Mais aujourd'hui, le smartphone, c'est à peu près, je crois qu'on en vend, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que l'an dernier, on en a vendu 22 ou 23 millions en France.
Bien avant le Bebop et le smartphone, il y avait le télégraphe optique et le Morse. Comment est né notre téléphone ? On vous raconte tout de suite sur RTL.
Merci Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
L'histoire du téléphone dans la curiosité, c'est pas simple comme un coup de fil, mais en tout cas, c'est passionnant. On est avec l'historien Patrice Carré. Alors, on va remonter dans le temps. Quel a été le tout premier moyen de communication qui, en quelque sorte, préfigurait le téléphone ?
On peut dire, si vous voulez, d'abord que depuis très longtemps, il y a des moyens de communication à distance. Depuis l'Antiquité grecque, dans la Bible, on a aussi des exemples. Mais bon, le premier système véritablement pérenne, c'est celui qui est mis au point au moment de la Révolution française par Claude Chappe. Claude Chappe, qui a étudié d'une part les langages cryptés, les langages diplomatiques, qui d'autre part s'est intéressé à tout ce qui concernait le langage des marins, va donc mettre au point un système qu'on appelle le télégraphe optique. Le télégraphe optique, c'est quoi ? C'est un grand mât sur lequel on va placer d'autres mâts articulés et on va pouvoir transmettre plus exactement des signaux environ de 7 ou 8 kilomètres, parce qu'en même temps, il faut des longues vues, évidemment, pour repérer les signaux. Et il y a tout un système de codage. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est le premier système vraiment à mettre au point un codage où chaque signe correspond à un bout de vocabulaire, correspond à un bout de phrase, correspond à un mot. Par exemple, l'empereur partir aujourd'hui, c'est 3-4 signaux, et qu'on va répéter le long de la ligne.
D'une station à l'autre,
si vous voulez. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le conte de Monte Cristo, à un moment, il y a la prise d'un télégraphe Chappe, et on demande au télégraphier, puisque tel était son nom, de bien vouloir dire ce qui a été dit. Et lui, il répond, mais non, moi, je ne fais que répéter les signaux.
Sans connaître les codes.
C'était un secret.
Cette histoire du téléphone, Patrice Carré, vous la racontez dans ce livre La vie électrique aux éditions Belin. Enfin, un petit saut dans le temps, on est le 28 mai 1844 et un certain Morse envoie son premier télégramme. Où est-il et que dit-il ce télégramme ?
Alors, le premier, c'est pas tout à fait le premier, à vrai dire, parce que...
On verra que c'est jamais le premier dans l'histoire du téléphone.
Non, c'est jamais le premier. Puis d'abord, cette notion en histoire premier, etc., ça n'a pas grand sens, à vrai dire. La télégraphie électrique, elle naît en 1837. Elle naît en 1837 et elle est très liée au début des chemins de fer. Pourquoi ? On a, depuis un certain temps, depuis les années 1820, commencé à travailler sur ce que l'on pouvait faire avec un signal électrique. Un signal électrique déplace une aiguille selon un vieux principe. Et peu à peu, on a l'idée de dire, mais si on déplace à distance des aiguilles comme ça, on doit pouvoir donner une signification, avoir des messages. Et les deux premiers qui pensent à ça, ce sont des Anglais, Cook et Weston, qui vont voir une compagnie de chemin de fer et qui expliquent qu'il y a toujours des problèmes d'horaire. C'est les débuts du chemin de fer, il y a des problèmes de sécurité. Et on va leur dire, ok, banco, ils installent une ligne dans la banlieue de Londres entre Euston et Camden. Aujourd'hui, c'est dans le Great London. Mais ce sont deux stations de chemin de fer qui deviennent les premières stations télégraphiques. Et on sait à quelle heure exactement part le train, à quelle heure il va arriver, à quelle heure il est à tel endroit, etc.
Est-ce que ce sont eux qui vont inspirer Morse ?
Alors, Morse, en partie, est inspiré par eux, mais Morse va bien au-delà. Morse est un personnage assez intéressant. C'est un peintre. C'est un amateur de peinture également. Et il a compris un business formidable. Il s'est dit... Non seulement je vais recopier les tableaux de Vinci, de tous les grands tableaux qu'il y a en Europe, mais je vais faire des tableaux avec tous les tableaux. C'est-à-dire que je vais installer dans des galeries la galerie du Louvre avec 5 ou 6 tableaux que je fais sur un seul tableau. La galerie de je ne sais plus quel musée, je fais 5 à 6 tableaux et il fait payer les gens pour rentrer là. C'est une sorte, si vous voulez, de vulgarisation pour les gens aux États-Unis qui, effectivement, n'ont pas à ce moment-là encore, en tout cas, la culture suffisante.
Et comment il bascule sur le Morse et sur ce premier message dont on parlait ? Qui dit, je crois, ce que Dieu a forgé.
Oui, parce que, si vous voulez... Il est, comme beaucoup de personnes à cette époque-là, il y a une technologie nouvelle qui s'appelle l'électricité. Tout le monde s'intéresse à ça parce que ça porte un imaginaire fabuleux. Et donc, lui, il va mettre au point, à partir de 1840, un système qui est extrêmement précis, qui est un système avec un code, avec des traits longs, des traits courts, des traits longs, des traits courts, qui vont reconstituer un vocabulaire. Et ça va devenir le vocabulaire morse que nous avons, quand nous étions petits, nous avions utilisé. Et alors, cette fameuse phrase qui est une phrase... Alors, qu'on lui prête, on prête cette phrase. Est-ce vraiment la vérité ?
On a peut-être écrit la légende.
Oui, il y a un côté légendaire, mais bon, c'est intéressant. C'est une référence à Vulcain et Phaistos, vraiment ce qui a été forgé par l'homme, le Dieu.
Voilà, ce que Dieu a forgé. Alors ensuite, il y aura Graham Bell qui va réussir à faire passer la voix. On a retrouvé la voix de ce scientifique britannique, écoutez.
Je crois que c'est le premier coup de fil, en fait.
Alors forcément,
le dessinateur n'a pas tout compris.
Oui, ça a progressé et on est content que ça ait progressé. Vous allez voir que Graham Bell n'était pas l'unique inventeur du téléphone et pas le premier non plus. Révélation tout de suite dans la curiosité.
1, 2, 3, 4. Allô, allô.
La curiosité est un vilain défaut.
Téléphone maison.
Thomas Hulot.
Non mais allô quoi.
Sidonie Bonnec.
On passe 4 heures par jour au téléphone et l'on vous dévoile les secrets de cette invention qui a changé, bouleversé nos vies avec l'historien Patrice Carré. 1876, Graham Bell invente le téléphone et ça donne ça. Première communication téléphonique, évidemment pas limpide comme aujourd'hui, mais quelle archive absolument merveilleuse. Et pourtant, au moment de déposer le brevet le 14 février 1876 à New York, Graham Bell n'est pas seul.
Non, il n'est pas seul. Alors, Graham Bell est un personnage assez intéressant. Il est d'origine écossaise. Il est aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Et son projet, c'est de rendre l'audition aux sourds. Et donc, il travaille sur une oreille artificielle. Et puis, parallèlement, lui aussi est très intéressé par tout ce qui se passe dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de la transmission. Et un jour, un petit peu par hasard, mais enfin, le hasard, vous savez, fait bien les choses, un petit peu par hasard, il se rend compte que cette oreille artificielle qu'il est en train d'inventer peut transmettre également des sons. C'est la fameuse phrase avec son assistant, Monsieur Watson, venez ici. Et tout de suite, Graham Bell a le sens, si vous voulez, du business qu'il peut faire autour, qu'il est possible de faire, pardon, autour d'une telle invention. Une innovation. Et il va déposer au mois de février 1876, le 18 février.
Mais il n'est pas tout seul, il y a Elisha Gray avec lui.
Elisha Gray qui...
C'est un concurrent ?
Ils ne se connaissent pas. Elisha Gray travaille parallèlement. Il travaille parallèlement, mais vous savez, beaucoup d'innovations, c'est dans l'air du temps. Hein, c'est toujours quelque chose qu'on pourrait reprendre tout un tas d'exemples dans l'histoire des technologies. Elisha Gray, lui, travaille sur ce qu'il appelle un téléphone musical. Mais il va déposer sa demande de brevet 5 ou 6 heures plus tard. Et en fait, quand on regarde bien l'innovation d'Elisha Gray, c'est à l'origine des synthétiseurs.
Il avait inventé autre chose.
Et donc, l'histoire va retenir Graham Bell, finalement.
L'histoire retient Graham Bell, absolument.
Simplement à quelques heures près.
À quelques heures près, et puis ensuite...
Il y a un autre rebondissement.
Oui. Et puis ensuite, surtout, très vite, Graham Bell fonde une société. Il est aidé par son beau-père, qui est un juriste, et il est entouré d'avocats. Et il y a un certain nombre de procès pour expliquer que c'est pas lui qui est à l'origine du téléphone, mais que c'est Gray, que c'est également l'Italien Meucci, etc. Mais tous les procès, il les gagne, et donc c'est lui qui est l'inventeur.
Et pourtant, en réalité, c'est vraiment l'Italien Antonio Meucci qui aurait créé le téléphone quelques années avant.
Oui, ça joue. Je méfie toujours de ce nationalisme technologique.
Et des premiers, si vous nous l'avez dit tout à l'heure.
Oui, ça, c'est un... Ça, en général, ça n'a pas grand sens.
Alors, on aime bien explorer toutes les facettes comme ça d'un thème. Puisqu'on parle de téléphone, il y a ce mot « allô ».
Oui.
Il vient d'où, le mot « allô » ?
Alors, « allô », il viendrait du vieil anglais « hello », qui voudrait dire « sois béni ». Et puis, peu à peu, ce « allô » est devenu « hello ». Hello, 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 hello. En allemand, on dit hallo. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que si vous regardez les Italiens et les Japonais, parce qu'en Italie, ils disent pronto, et les Japonais, ils disent moshi moshi. Vous vous souvenez, dans ce film de Truffaut, Domicile conjugal, quand Antoine Douanel dit, mais en japonais, on dit moshi moshi. Mais alors, quand on dit hallo, hallo, on dit moshi moshi, moshi moshi. Vous vous souvenez pas de ce passage extraordinaire.
C'est très drôle.
Léo était génial.
On continue d'explorer ce téléphone du télégraphe, c'est ça, optique, le tout premier au smartphone, voilà. Il y en a eu des étapes.
Ah oui.
Et notamment le téléphone automatique qu'on connaît au début du XXe siècle en France. Ça ressemble à quoi ça?
Alors, si vous voulez, au tout début, quand il y avait peu de téléphones, c'était ce qu'on appelle des demoiselles du téléphone qui, dans des standards, ce qu'on appelle des standards, mettaient avec des lignes. Alors, il y a des pages extraordinaires, d'ailleurs, de Proust. Marcel Proust, qui était un amateur de téléphone, parlait de ces demoiselles du téléphone comme des prêtresses de l'invisible. C'est elles, effectivement, qui réussissaient à faire communiquer les êtres humains les uns entre les autres. Et puis, peu à peu, il y a eu de plus en plus en plus en plus de téléphones. Et on ne pouvait plus garder, si vous voulez, ces standards téléphoniques qui devenaient énormes, qui, en plus, posaient des problèmes de personnel. Il fallait recruter. Ouais. Et il se trouve qu'aux États-Unis, il y a un dénommé Strugger qui a eu une idée assez intéressante. Strugger était, lui, aussi un électricien, mais il était aussi entrepreneur de pompes funèbres. Et il s'est rendu compte qu'à un moment, il y avait autant de personnes qui mouraient dans sa ville, mais ils allaient chez son concurrent. Enfin, ils allaient, les familles faisaient appel au concurrent. Et il s'est rendu compte que la femme du concurrent était opératrice du téléphone. Et donc, quand elle apprenait qu'il y avait un mort dans la famille Smith ou dans la famille Jones, elle disait à son mari, dépêche-toi, parce qu'il y a du travail pour toi. Et alors, ça l'a un peu énervé, ce que je comprends, et il a mis au point un système qu'on va appeler step by step, pas à pas, où on va reproduire, comme un automate si vous voulez, on va reproduire les gestes des demoiselles du téléphone avec un instrument électromécanique.
D'accord, et une machine va donc remplacer petit à petit ces opératrices qui avaient tellement bien inspiré Fernand Reynaud, écoutez.
Enfin, dans le bureau de poste, c'est bien à votre guichet qu'il faut s'adresser pour téléphoner. Oh, hey. Oh, vous êtes pénible, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais téléphoner. À qui? Je voudrais le 22 à Agnières.
Donc ça, on est dans un sketch de 1966 avec
56
avec Fernand Reynaud. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui. On s'adressait à une opératrice, oui. C'est ça?
On s'adressait à une opératrice, si vous voulez. Donc.
Mais le 22 à Agnières, ça veut dire qu'il y avait très peu de numéros.
Non, le numéro 22, oui, effectivement, mais il y en avait peut-être 2000, mais là, on tombait sur le 22.
Donc, ça veut dire la 22e personne à Agnières,
oui,
c'est 22, ça, en quelque sorte. C'était un numéro par foyer.
Oui, c'était un numéro. Je ne sais pas. Là, franchement, je ne sais pas vous dire si c'est parce qu'il y avait le foyer numéro 22. Il se trouve que c'était ce numéro-là qui avait été attribué à telle personne.
Patrice Carré, à quelle époque le téléphone avec. J'ai même oublié son nom tellement. Le téléphone fixe, voilà, oui. Apparaît dans tous les foyers en France. Tellement on ne l'utilise plus.
Alors, en France, si vous voulez.
Et vraiment s'installe durablement.
Alors, en France, il commence à y en avoir dès avant 1900. Mais véritablement, une massification du téléphone fixe dans les foyers, c'est à partir de 1970, 1974, 1975, avec ce qu'on appelle le rattrapage téléphonique dans le cadre du 7e plan, si vous voulez. La France était extrêmement en retard dans le domaine du téléphone. Ce sketch de Fernand Reynaud l'illustre parfaitement bien. C'était à l'époque où on disait que la moitié de la France attend le téléphone et l'autre la tonalité, si vous voulez. Il y avait des tonalités, ce qui n'existe plus aujourd'hui, bien sûr. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a véritablement un rattrapage téléphonique, un véritable décollage du téléphone en France.
Et nos cabines téléphoniques, combien de coups de fil y sont encore passés? Réponse tout de suite sur RTL. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, on vous raconte comment les animaux s'entraident.
14h-15h.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
La saga téléphone, aujourd'hui dans la curiosité. Alors, pas le groupe, pas Jean-Louis Aubert et compagnie. C'est l'objet, cet objet qui ne nous quitte plus. Et on en discute avec l'historien Patrice Carré. On va parler des cabines téléphoniques. Pour terminer, est-ce qu'il en reste encore beaucoup en France?
Il y en a de moins en moins, si vous voulez, parce que peu à peu, elles disparaissent. Il y en avait 300 000, je crois, au maximum en 1997. Et aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Il y en a quelques milliers, mais c'est vraiment un objet qui disparaît.
Combien de minutes d'appels sont passées par jour dans ces cabines qui restent en France?
Aujourd'hui, à peine une minute.
Ah, une minute par jour?
À peine, oui, c'est rien.
Elles vont définitivement disparaître, on peut l'anticiper?
Écoutez, ce qui est très intéressant, et moi je vois ça dans beaucoup de villages, c'est que peu à peu, elles sont transformées en bibliothèques, c'est-à-dire en petites librairies. On les garde, et puis les gens viennent déposer les bouquins qu'ils ont lus. Et moi, je trouve ça formidable, parce que comment un lieu de communication, qui était de la communication vocale, devient également un lieu de communication via le livre, et on reste effectivement dans l'histoire de la communication.
Cette belle histoire du téléphone. Merci. À découvrir dans votre livre La vie électrique et plein d'autres histoires et imaginaires, c'est aux éditions Belin. Merci infiniment Patrice Carré.
Merci à vous.